Ecclésia Magazine. Ecclésia Magazine. Maxime Dalle.
Alors aujourd'hui dans Ecclésia Magazine, en ce vendredi, nous allons parler des vertus thérapeutiques du chant, qu'il soit médiéval ou grégorien ou encore autre. On posera la question à mon invité Frédéric Rentière, directeur artistique et musical, qui présente dans le cadre d'une conférence justement ces vertus thérapeutiques. Cette conférence qui va se tenir ce dimanche, les vertus thérapeutiques d'Hildegarde de Bingen, attribuées au chant. Alors que le chant nous transfigure, c'est aussi la question qu'on peut se poser, et nous en parlons aujourd'hui avec Frédéric Rentière. Donc bonjour à vous.
Bonjour Maxime, merci de m'avoir invité.
Ben, je vous en prie, toujours un plaisir de parler de chant avec vous et en particulier de chant médiéval. Alors Frédéric, cette conférence qui va se tenir ce dimanche 5 mars, oui. Pourquoi c'est vrai que l'intitulé peut paraître assez étonnant de prime abord, les vertus thérapeutiques du chant selon Hildegarde de Bingen. Pourquoi cette thématique?
On le sait, parce que Hildegarde est beaucoup vulgarisé depuis la deuxième moitié du XXe siècle pour les conseils qu'elle donne en matière de nutrition, et puis son traité Causer et Curer, donc sur les causes et les remèdes, traité médical. On s'intéresse souvent finalement à la question du bien-être et de comment bien se nourrir pour être en bonne santé, mais on se pose rarement la question de la fonction du chant. Oui. Et quand on lit son traité de médecine, on se rend compte que le chant est omniprésent. Mais il n'est pas omniprésent que dans son traité de médecine, il est présent dans tous ses écrits. Mmh. Voilà. Et c'est de là que j'ai pu finalement tirer la substantifique moelle de ce qu'elle en pense.
Parce qu'elle en parle justement de ses vertus thérapeutiques du chant d'une manière explicite, ou alors il y a des porosités entre, quand elle évoque la médecine, parce que c'est vrai qu'on connaît plus Hildegarde pour ses conseils médicaux, même alimentaires, sur toutes ces choses-là. Donc elle établit précisément des ponts entre médecine et musique.
Hildegarde est un auteur complexe parce qu'elle a au moins trois types de courants d'écriture, le courant de lettres, le courant mystique en lui-même, le Chivias, le livre des œuvres divines, etc. Et puis il y a les écrits scientifiques, c'est-à-dire le traité Physica, sur les subtilités de la matière, et puis on a aussi le traité les causes et les remèdes. Et alors quand on lit, c'est toujours très difficile de lire Hildegarde dans un même ouvrage, parce qu'elle a une pensée qui est circulaire, qui n'est pas chronologique ou linéaire, si vous voulez. En revanche, c'est beaucoup plus facile de la lire quand on s'intéresse à un thème et qu'on va voir dans toutes les sources d'Hildegarde. Et là on se rend compte d'une unité extraordinaire. C'est le travail que j'ai fait sur le chant. Je peux vous assurer que chaque passage de texte vient corroborer la même idée et l'éclairer par une fenêtre différente, justement. Et c'est ça que je propose.
Alors, on va essayer de comprendre en quoi consistent aussi ces vertus thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on entend par vertu thérapeutique? Mais avant cela, on va essayer de se plonger, justement, dans cette thérapie musicale en écoutant peut-être le premier extrait d'un chant que vous avez sélectionné, « Ovos Angeli ». Peut-être pouvez-vous nous le présenter en quelques instants, Frédéric.
Voilà, alors, et donc, il s'agit d'un chant que je commenterai plus amplement dimanche 5 mars à la conférence. Oui. Justement, un chant qui explicite ce que sont les hiérarchies célestes, c'est-à-dire donc les ordres angéliques, enfin, qui structure le monde spirituel. Et ce chant, justement, invoque chaque hiérarchie et met en lien le chant de l'homme avec le chant des anges.
Tout de suite, on écoute « Ovos Angeli ».
Thank you.
Donc voilà un extrait de ce magnifique chant, O Vos Angeli. Alors, première question, Frédéric Rentière, après l'écoute de ce chant, on voit bien qu'il nous fait éprouver précisément une certaine sérénité, un apaisement. Mm-hmm. Donc, peut-être première vertu thérapeutique, si l'on peut dire, du chant, de ce chant, par exemple.
Alors, bien sûr, il y a cet aspect, justement, on pourrait dire, lénifiant, mais pas au sens moderne, c'est-à-dire qui adoucit le cœur, qui adoucit les humeurs. Hildegard va en parler. Mais je vais vous lire un fragment de texte. Oui. Où justement Hildegard nous explique l'importance du chant en lien avec les anges. Alors, donc c'est un extrait de la lettre 23 qu'Hildegard adresse au prélat de Mayence. Alors, nous nous rappelons combien l'homme a besoin de la voix de l'esprit de vie qu'Adam a perdu en désobéissant. Donc là, on rentre dans une thématique très importante pour Hildegard, c'est la voix du premier Adam. Lorsqu'il était encore innocent, avant la transgression, sa voix suissait pleinement au cœur des anges pour louer Dieu. Car les anges possèdent cette voix par leur nature spirituelle, eux qui sont appelés esprits, par l'esprit qui est Dieu. Adam a donc perdu, et ça c'est très important pour comprendre la thérapeutique du chant, Adam a donc perdu cette affinité avec la voix des anges qu'il possédait au paradis. Il s'est fermé à cette connaissance qu'il possédait avant le péché, comme un homme qui, en s'éveillant, ne se souvient pas ou n'est plus très sûr de ce qu'il a vu en songe. Alors, est-ce que nous le dit de garde, elle va le développer ensuite dans son traité de médecine, elle reviendra là-dessus.
Oui.
C'est l'idée que le chant est l'harmonie du chant est une clé, justement, pour retrouver le premier Adam, l'état du premier Adam, puisque le premier Adam possède en lui ce qu'elle appelle le monocorde intérieur, c'est-à-dire une science innée de tous les intervalles. Et c'est en fait le fait qu'il s'est fermé finalement à la connaissance infuse, à la connaissance que Dieu lui donnait, qui fait qu'il n'entend plus et ne sait plus utiliser spontanément ces intervalles. Donc on a une première clé d'entrée dans l'importance que prend le chant, et on pourrait dire qu'il est une thérapie naturelle dans le fait que bien chercher l'harmonie, c'est déjà retrouver l'état du premier Adam pour Hildegard.
Et cette quête d'harmonie, Frédéric Rentière, on peut la trouver avec n'importe quel chant ou avec certains chants, on va dire, certains genres musicaux spécifiques.
Alors ça, Hildegard, évidemment, n'en parle pas, mais elle défend, elle, bien sûr, le répertoire qu'elle a composé, nouvellement composé à l'époque, puisqu'elle a composé et les textes et les musiques, ce qui est quand même fort au XIIe siècle, il fallait le faire. Donc elle est totalement hétérodoxe. Et elle dit que ces harmonies, ce n'est pas elle qui les a créées. D'ailleurs, elle n'avait pas de formation musicale à proprement parler, donc elle aurait été bien en peine de composer. Mais elle dit, j'ai reçu des anges ces mélodies et ces harmonies, en fait. Enfin, ces harmonies, j'ai reçu des anges ces harmonies. Et ces harmonies, moi, voilà, les symphonies que j'écris, c'est le terme qu'elle emploie, ces assemblages de sons, essayent finalement de faire résonner ce qui résonne dans le ciel. Et elle dit, c'est très important, il faut que ce qui résonne dans le ciel résonne sur terre pour que la dent puisse renouer avec ce chant des anges. En fait, c'est ça, c'est un des éléments importants. Donc effectivement, son équilibre. Et alors ça, Hildegard, quand elle rentre dans le côté plus physique, dans le traité de médecine, elle va expliquer qu'en fait, le chant est important parce qu'il est lié intimement à la nature de l'âme. Alors là, ce serait intéressant. Mais je voudrais peut-être qu'on écoute un chant d'abord qui permettra d'introduire ce que c'est que la nature de l'âme.
Alors on va écouter O Splendidissima.
O Splendidissima. Voilà, tiens d'ailleurs à dire que donc, ce sont des enregistrements de l'ensemble Sequence dirigé par Benjamin Bagby, de très beaux enregistrements.
Magnifique. Alors, on va juste avant peut-être de lancer ce chant, Frédéric, pouvez-vous nous présenter cette petite pépite que l'on va écouter dans quelques instants?
Alors, ce chant, en fait, est intéressant à différents niveaux. Ouais. D'abord, il a introduit la notion de gemme, de pierres précieuses. On sait que dans le physica, Hildegard parle beaucoup des pierres précieuses et de leurs vertus subtiles. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, ça c'est un autre sujet. Mais c'est très intéressant. Et elle parle également du feu du Père, en fait. Hein. Elle compare souvent, d'ailleurs, le soleil, donc un peu, finalement, à la chaleur créatrice, duquel va partir le Verbe, le Fils, en fait, qui est le cœur du Père, elle le dit. Hein. Le Fils est le cœur du Père, et c'est ce Verbe qui va s'imprimer dans la matière et former la dent.
D'accord.
Et alors, c'est à partir de là qu'on va elle va déduire la nature de l'âme et en quoi l'âme est liée au chant, justement.
On l'écoute.
Thank you.
Frédéric Rentière, notre deuxième extrait musical. Alors c'est vrai que à cette écoute, on a l'impression un peu de se mouvoir vers le ciel.
Exactement.
Vers les anges.
Voilà. Donc vous ressentez déjà ce que Degarde explique de multiples manières. C'est bien.
Donc ça fonctionne.
Bien sûr que ça fonctionne. Voilà. Mais effectivement, c'est cette sensation, je pense qu'on est tous enclins à l'éprouver. Il suffit simplement d'un lâcher prise, en fait, le simple lâcher prise en écoutant le chant suffit. Et alors justement, j'ai un autre fragment de texte intéressant dans le Chivias, on connaît les voix, où Hildegarde va dire quelque chose de très intéressant. Elle va dire « Le verbe désigne le corps. » Bon, la symphonie, ce qu'on va traduire souvent par mélodie, mais c'est un peu dommage, c'est la symphonie, le terme qu'elle emploie, l'esprit. Donc le verbe désigne le corps, la symphonie, c'est-à-dire l'assemblage harmonieux des sons, désigne l'esprit, et enfin l'harmonie désigne la divinité. Et elle continue « Mais le verbe désigne aussi l'humanité du Fils de Dieu. » Donc là, elle va relier le corps, le verbe en tant que corps, au Fils de Dieu. Et elle dit « Ainsi, le verbe représente le corps, elle le répète, la symphonie manifeste l'esprit, c'est que l'harmonie céleste annonce la divinité et que le verbe montre au grand jour l'humanité du Fils de Dieu. » Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle établit une hiérarchie triple. Elle dit « Voilà, il y a l'harmonie. » C'est ce qu'on ne peut pas entendre, c'est la musique des sphères en fait. Oui. Il y a, donc c'est le monde divin. Il y a la symphonie, ce sont les mélodies qu'on vient d'entendre là et qu'on entendra après, c'est-à-dire ce qu'elle appelle, elle, l'esprit, c'est-à-dire finalement ce qui anime la matière. Et puis enfin, il y a le verbe humain, c'est-à-dire les sons que je suis en train d'articuler, d'agiter, qui eux rappellent le fait que mon corps est vivant et qu'il résonne, mais qui est aussi le verbe de Dieu, qui est en fait la dimension matérielle de cette harmonie qui vient du Père. Et alors là, on a une clé aussi importante, sur le plan théologique cette fois-ci, c'est qu'en fait, la symphonie, la mélodie est essentielle, puisqu'elle est l'esprit qui relie le monde divin, l'harmonie, au corps. C'est-à-dire que c'est une fonction qui est, on va dire, essentielle et primordiale. C'est-à-dire que l'Adam, il est justement dans cette relation entre corps, esprit et âme, et il a besoin de ces trois étages, l'harmonie, la symphonie du chant et évidemment qu'il va vivre dans le corps. Ça, c'est cet équilibre primordial qu'il doit retrouver. Et le chant est un élément au centre, l'esprit, la symphonie est un élément essentiel. Si on le retire, il n'y a plus de relation entre le corps et l'âme. Donc ça, c'est très important aussi.
Alors c'est vrai que cette harmonie, à vous entendre, elle est avant tout, elle passe par le corps, bien évidemment, par une harmonie du corps et de l'âme, mais c'est une harmonie avant tout spirituelle, chrétienne. On peut se demander si finalement la perception qu'Hildegarde de Bingen a du chant ne s'adresse pas exclusivement aux gens qui sont déjà un peu initiés peut-être à la foi, à la spiritualité.
Non, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas une fonction, elle n'a pas un point de vue élitiste dans le sens où il faudrait vraiment être initié pour pouvoir rentrer, pas du tout. Elle dit simplement que ces harmonies, l'homme n'est plus capable de les entendre parce que son corps s'est transformé, il y a une déformation, elle le dit dans le traité Causé de Courrée, elle dit que chaque organe, l'harmonie qu'il y avait entre chaque organe s'est désaccordée, il y a un désaccordage du corps. Et le fait qu'il y ait ce désaccordage fait que l'homme n'est plus capable d'entendre l'harmonie. Donc même initié, de toute façon, s'il n'entend pas, ça ne sert à rien. Même s'il étudie la mathématique du son, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc il reste une médiation infuse qui va être justement ces mélodies qu'elle reçoit, mais que d'autres reçoivent aussi, et qui, elles, viennent rétablir l'équilibre et redonner les clés d'accordage du corps. C'est ça qui est important. Et c'est en cela qu'on arrive à une définition, à un renouvellement des définitions de l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne savent plus trop, on sait nous-mêmes plus trop ce que c'est. C'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit? On est un peu embêté, un peu embarrassé. C'est important. D'ailleurs, c'est un peu embêtant en tant que chrétien, parce que la notion d'esprit, de pneuma et la notion d'âme, psyché, est quand même super importante dans le Nouveau Testament. Et bien là, elle donne des clés intéressantes. Elle dit, mais oui, en fait, l'âme, qu'est-ce que l'âme? L'âme, elle est symphonique. L'âme, en fait, elle contient tous les sons. Elle contient les proportions merveilleuses du cosmos, des ellipses sphériques des astres. Mais l'âme, tant qu'elle ne peut pas l'exprimer sur Terre, si elle s'est incarnée, elle souffre. Il faut qu'elle puisse l'exprimer. Et si elle souffre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va dérégler le corps. Donc, pour qu'elle puisse régler le corps et pour que l'harmonie retrouve, le corps retrouve son harmonie originelle, il faut que l'âme puisse chanter. Alors ça, c'est très intéressant. Alors peut-être c'est l'occasion d'écouter le troisième chant, justement.
Bien sûr, donc on va écouter ce troisième extrait, O Igne Spiritus, que vous pouvez peut-être là aussi nous présenter en quelques mots, Frédéric.
Voilà, donc O Igne Spiritus, justement, c'est au feu, enfin, on pourrait dire souffle igné, hein, littéralement, hein, c'est un vocatif, O souffle igné. Et alors elle invoque ce souffle igné, qui est en fait le souffle créateur dans Genèse 2, qu'on connaît bien. Voilà, et ce souffle créateur qui va animer l'être, qui va former la dent, l'animer. Alors elle va développer ça dans le traité de médecine, elle va faire et toute sa théorie médicale va découler de ça. Et elle va dire que l'âme, en fait, la respiration est fondamentale pour l'âme. Pourquoi ? D'ailleurs, on voit bien quand l'enfant sort du ventre de la mère, immédiatement, il y a la question de l'air qui se pose immédiatement. Mmh. Pourquoi ? Parce que l'âme contient le feu, en fait. Elle contient ce feu du Père. Et alors, elle va reproduire le geste créateur de Dieu, c'est-à-dire qu'elle va insuffler ce feu dans le corps. Et quel va être le vecteur de ce feu ? L'air, puisque l'air, elle le dira très justement, l'air n'est pas le corps du feu, l'air est l'enveloppe du feu. Et l'air à la fois contient le feu, mais aussi l'excite. Voilà. Mmh. Et alors, donc, du coup, et quand on chante, ce qui se produit, c'est que, bon, on a une respiration plus subtile, et ce feu... il retrouve une certaine harmonie puisque l'âme, elle va imprimer dans le chant, elle va faire retentir des harmonies qui, elles, sont éternelles et qu'elle a soif d'entendre et de faire résonner. C'est parce que c'est une part essentielle de son accomplissement, l'âme, justement, de faire entendre ce qu'elle a connu dans un autre état, vous comprenez ? Donc là, on est vraiment dans une médecine chrétienne,
oui,
et dans une médecine qui ne renie aucun aspect, en fait, de la matière, puisque l'âme, elle-même, est matière. Elle dit, elle est faite de feu, d'eau et d'air. Donc on ne peut pas être plus clair, on ne peut pas être plus matériel dans la description de l'âme. Et c'est parce que justement elle contient ce feu que justement elle anime le corps.
Alors tout de suite, O Igne Spiritus. O Igne Spiritus, Frédéric Rentière, déjà merci pour ces trois beaux extraits que l'on vient d'écouter. Alors, dans le cadre de votre conférence que vous donnez le dimanche 5 mars, donc à 15h, dans quel lieu d'ailleurs ?
Alors, donc, ce sera à Vernoux-la-Celle, au cabinet conseil. Donc, tout est sur le site voxinrama.com, sur la page Facebook aussi de l'ensemble médiéval Voxinrama. Il est encore temps de réserver.
Il reste, je crois, une petite vingtaine de places. Hein.
Voilà, il reste une petite vingtaine de places. Il faut se dépêcher, voilà. Et alors, donc, cette conférence, je tiens à le préciser, est en avant-première du drame musical que l'ensemble Voxinrama, que j'organise avec Voxinrama, et dont les deux premières auront lieu les vendredis 5 et samedi 6 mai à 20h. À Paris, à l'église Saint-Marcel. Donc là où justement, notamment, une comédienne incarnera le rôle d'Hildegard, et notamment des scènes liées justement aux visions sonores d'Hildegard, pour faire rentrer vraiment le public dans, l'expérience qu'elle a vécue de ces sons qu'elle a perçus et dû traduire en chant, par les écrits, etc.
Dans le cadre de cette conférence de ce dimanche, Frédéric, vous allez expliquer justement en quoi Hildegard de Bingen voyait dans le chant cette harmonie, justement cette harmonie du corps, de l'âme, cette harmonie avec Dieu, en l'étoffant avec des musiques. Vous allez
je propose dans le cadre de conférence de faire trois commentaires d'écoute.
Oui.
Alors évidemment, là, on n'a pas le temps parce que ça prendrait carrément un quart d'heure par chant à peu près. Mais il y a effectivement des explications à donner puisque chaque chant est un peu une pépite, un résumé de plusieurs écrits en général. Donc il faut connaître un petit peu ce qu'il y a derrière pour comprendre ce qui a nourri son inspiration. Notamment le premier chant qu'on a entendu sur l'hiérarchie céleste, il est extraordinaire parce qu'il est lié, très fortement lié à une enluminure qui elle-même est très surprenante quand on la regarde. Et ce que je propose au public, c'est justement de relier l'aspect visuel et sonore et aussi la matière, parce que ce sont des enluminures qui ont une matière assez dense, pour qu'ils puissent relier vraiment à toutes les dimensions ce qui pouvait se passer en elle finalement. Parce que si on n'est que dans le son, on est coupé de l'image, alors que l'image et le son sont indissociables pour Hildegard. Mais aussi les impressions, le toucher, les odeurs, enfin tout est lié en fait. On est dans le kinesthésique.
Ouais, dans une sensorialité intégrale presque.
Totalement, c'est mystique au sens plein du terme. Voilà.
Alors peut-être également une question que j'avais un petit peu évoquée au début d'émission, sur le genre musical qui permet cette harmonie. Donc évidemment, Hildegard n'en parle pas car nous sommes au XIIe siècle.
Oui.
Mais vous, Frédéric, quel serait votre avis sur toutes les musiques que l'on peut écouter, lesquelles précisément, quel genre musical nous aide à être dans ce chemin harmonieux
Je dirais toutes les musiques qui recherchent l'harmonie. Pourquoi ? Parce que, alors après évidemment, on est à une époque où l'harmonie n'est plus du tout quelque chose, on va dire, au centre de la musique. On n'est plus au Moyen-Âge, ou même à l'époque baroque jusqu'à l'époque romantique. Mais c'est très important, cette notion d'harmonie, parce que c'est une dimension, on pourrait dire, transcendantale. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement. Il s'agit, si la musique ouvre une porte de recherche et surtout d'expérimentation de ce qu'est l'harmonie. Et comme on n'a pas beaucoup de portes pour éprouver ça, je dirais toutes les musiques qui proposent cette porte vers l'harmonie peuvent être bénéfiques. Alors, dans ces répertoires, il y a évidemment le chant d'Hildegard, qui est justement, qui a un rapport à la matière qui est extrêmement subtile et qui est très initiatique pour les chanteurs. Il y a bien sûr le chant qu'on dit grégorien, c'est-à-dire la tradition latine. Mais je connais pas tout le répertoire, mais j'aime beaucoup en général les traditions liturgiques, qu'elles soient chrétiennes, juives, musulmanes ou autres. Et je retrouve cette notion d'harmonie. Et je retrouve ce que, à chaque fois, c'est des expériences, elles impriment en moi des impressions. C'est comme si elles réencodaient mon corps. Et j'ai envie de dire, c'est ces musiques-là qui peuvent énormément apporter, en fait. Peuvent faire grandir l'intérieur de soi, réédifier, voilà, à tout âge d'ailleurs.
Et ces vertus thérapeutiques, justement, comment les mettre en place dans l'église, tout simplement, dans sa paroisse?
C'est une bonne question. Alors là, je connais un peu le terrain.
Ouais.
Alors, aborder les questions de thérapeutiques, c'est pas forcément évident. Parce que quand on est dans un milieu religieux, enfin en tout cas je parle de ceux que j'ai connus, on est plus dans l'idée quand même d'assurer une liturgie. Donc on n'est pas dans ces questions de transformation, d'intérieur, etc., de thérapeutique et autres. On est plutôt dans l'idée de déjà arriver à bien chanter la pièce, que ce soit au bon moment, pas trop tard, pas après, etc. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Mais pour que ça puisse se faire, ça, alors moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais dans le cadre d'ateliers, dans le cadre d'actions pédagogiques, où là, les gens sont un peu sortis d'un contexte d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Donc, du coup, ils peuvent s'ouvrir à ça. C'est ce que je fais avec l'atelier de chant grégorien, par exemple, le mercredi soir. Mais parce que là, les gens n'ont pas les pédamoclès sur la tête, vous comprenez. Et donc, j'essaye des stages aussi de prendre ce temps nécessaire pour dire que le chant est d'abord un outil d'édification.
Il y a une demande d'ailleurs de.
C'est pas narcissique d'ailleurs ce que je dis, attention, c'est pas juste pour se recoiffer devant la glace, c'est pas ça du tout le chant. Le chant, c'est vraiment, il nous aide à éprouver notre structure, notre architecture. Et la question que je pose souvent, c'est en liturgie, si on n'éprouve pas bien son architecture, comment peut-on faire rayonner l'architecture ecclésiale, vous voyez. Je renverse le problème. Et
bien
souvent, je regrette que le problème soit traité à l'envers. Voilà.
Écoutez, merci beaucoup Frédéric Rentière pour cette évocation d'Hildegarde de Bingen et des vertus thérapeutiques du chant, qu'il soit médiéval ou grégorien. On peut donc participer à votre conférence de ce dimanche 5 mars en se rendant sur votre site voxinrama.com. Merci à vous.
Merci.